Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC. GG, 7 et match.
Le président de la République a donc pris la parole hier soir à 20h pour dire qu'il fallait être prêt à répondre à une escalade menée par la Russie. Mais il a défini sans jamais que ce soit l'Europe ni la France qui prennent l'initiative de l'offensive militaire ou du combat militaire. Mais le président a dit, il faut faire face, on a un objectif, faut pas que la Russie gagne cette guerre. Écoutez le chef de l'État.
Qu'est-ce qui se joue en Ukraine ? Une guerre qui est existentielle pour notre Europe et pour la France. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative.
Voilà ce qu'a dit le chef de l'État. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Elle est existentielle pour l'Europe et pour la France. Est-ce qu'il a raison ? Oui pour Zora, Jérôme et Olivier. Non pour Mourad Boudjelal. Vous venez prendre la parole au 32-16, bien sûr. Mourad, tu as les 60 secondes. Moi. Bah oui, c'est normal.
J'avais oublié.
Tu es seul face au président de la République, 3 minutes, hein, à l'Europe et au GG. Alors vas-y.
Je commencerai par dire, il est toujours temps de faire la guerre. On n'est jamais en retard sur la guerre. Et aujourd'hui, dans ce qui se présente, j'ai eu l'impression hier de revivre la séquence du Covid avec le « Nous sommes en guerre » et le Covid est remplacé par Poutine. Moi, j'ai pas envie aujourd'hui de prendre le risque. Quand on me dit que ça sera, on a connu la guerre froide où pendant 40 ans, la dissuasion nucléaire a fait en sorte que personne n'a appuyé sur le bouton. Moi, j'ai pas envie de prendre ce risque. Parce que ce risque, c'est la fin du monde. Ce risque, c'est la mort de nous tous. Et j'estime qu'aujourd'hui, personne ne peut jouer avec ça, quels qu'en soient les enjeux. Et quand le président parle de cette guerre, on a l'impression que on est une puissance qui va s'attaquer à la Russie. Possible. Est-ce que la Russie est isolée ? Non. La Russie, c'est les Chinois. On va faire la guerre aux Chinois ? On va faire la guerre à la Corée du Nord ? Est-ce que dans tous ces pays, est-ce que tout le monde est contrôlable ? Est-ce qu'on est certain qu'il n'y en a pas un qui appuiera sur un bouton ? Et s'il y en a un qui appuie sur un bouton, est-ce qu'on a le droit de laisser le doute ? Je termine. Nous, on appuiera aussi sur un bouton. Et tout le monde meurt. Ouais, mais c'est ça dont on parle. On ne parle pas de guerre, là. On ne parle pas de guerre. Enlevez le mot guerre. Mettez fin du monde. Et justifiez-moi la fin du monde.
Mais on peut voir aussi les choses d'une autre façon. C'est-à-dire que toi, tu veux reculer ce qui paraît inéluctable. C'est-à-dire que si tu cèdes et si tu considères que Poutine n'est pas dangereux, en tout cas dans sa stratégie d'expansion et dans son idée de faire tomber l'Ukraine et le reste derrière.
On n'en sait rien.
On le sait.
On n'en sait rien.
C'est son projet.
La Pologne fait partie de l'OTAN. Ça,
oui, mais quand même.
Poutine, il fera beaucoup plus attention à d'envahir un pays qui fait partie de l'OTAN que l'Ukraine,
non,
qui pour l'instant n'en fait pas partie.
Est-ce qu'on regarde Poutine faire tomber l'Ukraine et qui veut derrière, oui, et on dit rien? Ou est-ce que quelque part on est comme dirait c'est une expression un peu caricaturale, mais est-ce qu'on est courageux, est-ce qu'on est des bonhommes et on lui dit voilà,
ça justifie la fin du monde, ça justifie la fin du monde,
non mais
donnez-moi quelque chose qui justifie la fin du monde.
Juste je te réponds.
Attends, ça aura pas fini son raisonnement.
Je pense que c'est pas une question de je veux la paix, parce qu'une fois que t'as dit que tu veux la paix, t'as rien résolu. Lui, il veut pas la paix, il veut,
une fois que t'as détruit la planète, t'as tout solutionné.
Lui, il veut l'expansion en toute liberté, en toute impunité, et de qui il veut, quand il veut. Et nous, l'Europe, on peut le regarder
faire. C'est l'image qu'on nous donne. Moi, je ne suis pas un défenseur de Poutine.
On peut le regarder faire jusqu'à un moment donné. Ils se disent, mais de toute façon, ils ne disent jamais rien.
Zora,
jusqu'à ce qu'on arrive chez eux.
Quand Poutine sera aux frontières de la France, je serai d'accord, le premier à me lever pour aller combattre les Russes. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Mais c'est ce qui se passe.
Et moi, j'ai pas envie que notre génération, que nos gamins, ils vivent avec la menace nucléaire sur la tête, avec la peur de la fin du monde.
Il y en a à qui on n'a pas prêter justement cette envie de bouffer l'Europe, et on l'a laissé parce qu'on a pensé que du point de vue démocratique et qu'il n'était pas dangereux. On connaît la suite. L'histoire, elle a toujours les mêmes ressorts. Je veux dire, Poutine, il s'emballe. Il est
et
pas
on connaît la suite
Ukraine.
Et c'est grâce aux Russes qu'on ne parle pas allemand.
Et aux Américains.
Oui. Et aux Américains, bien
Mourad,
sûr.
Oui. Mourad, la dissuasion.
Mais sur le front russe, les Allemands, ils se sont bien entamés quand même.
Mourad, la dissuasion nucléaire dont tu parles ne doit pas être un blanc-seing laissé aux dictateurs et aux agresseurs de tout poil. C'est-à-dire que parce qu'il y a une dissuasion nucléaire, on ne doit pas non plus regarder ailleurs et laisser faire. C'est quand tu dis le jour où il est à mes frontières, on réagira. Sauf que ça sera trop tard.
Mais oui.
Non. Donc c'est toujours l'éternel problème.
De toute façon, c'est déjà qu'est-ce trop tard.
Qu'est-ce
que tu veux faire face à la Russie?
On est en train de. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On est en train de parler
avec nos...
donc d'une agression qui nous concerne au plus haut point, parce qu'effectivement l'avenir du monde se joue là-bas. Et que si on regarde
là-bas,
si l'on regarde ailleurs, si on laisse cette guerre se développer, si on laisse la stratégie d'expansionnisme de Monsieur Poutine se développer, en sachant que le paramètre de guerre fait partie de son équation économique, c'est-à-dire que pour lui, la Russie ne peut se développer et gagner de l'argent qu'avec la guerre. C'est-à-dire que pour lui, la guerre n'est pas là par défaut. La guerre, c'est un calcul précis pour développer son pays. Or, tu peux faire partie, toi, de l'équation. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on se prépare et qu'on soit en capacité de réagir si tant est qu'il nous attaque. Mais, on ne doit pas jouer notre avenir au dé. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se dire, bon, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Mais non, parce que je te retourne le truc. On peut, si tu pousses ton raisonnement plus loin et que tu dis, non, on va attendre. On ne fait rien, on attend. Ben, tu joues au dé.
Alors, Jérôme,
donc là, tout ce que je te dis, je te parle pas de la guerre nucléaire. Jusqu'à preuve du contraire, en Ukraine, c'est pas une guerre nucléaire. C'est une guerre conventionnelle et c'est avec des armes conventionnelles qui risquent de s'étendre progressivement.
Donc on va faire la guerre à la Russie avec des baïonnettes.
Ce qui t'a protégé depuis 30 ans, la paix, elle est quand même grandement liée à l'Europe. Si l'Europe est menacée, oui, tu auras plus de paix.
Alors, c'est clair. Jérôme, tu es dans la. Est-ce que si tu penses que si les Russes installaient des bases militaires au Canada, les Américains réagiraient ou pas?
Mais
non, je pose la question. Est-ce que les Américains réagiraient?
Je te signale qu'ils sont déjà en face. Hein.
Bon, quel est le seul pays?
Ça s'appelle le détroit de Bering.
Quel est le seul pays qui a utilisé la bombe atomique?
Les États-Unis.
Voilà. Et quel est le pays qui donne des leçons?
Et dans quelles circonstances, cher ami?
Quel est le pays qui donne des leçons?
Dans quelles circonstances? Je te rappelle quand même qu'on était dans un conflit mondial extrêmement grave avec la Shoah, et qu'il fallait le stopper, et que l'utilisation de Hiroshima, il y a eu deux bombes. Pourquoi? On peut se poser la question, effectivement. Mais ça a stoppé le conflit, quoi.
Oui, parce que c'était les seuls à posséder l'arme nucléaire à cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas.
Mais
il y a
c'est plus
pays qui la possède.
Et jusqu'à la Russie,
contrairement à ce que vous croyez, la Russie n'est pas isolée.
Il y a l'Iran, la Chine, la guerre en 70 ans,
tu n'as pas eu un seul conflit nucléaire.
La guerre en Ukraine n'a pas commencé il y a deux ans.
Grâce à la dissuasion,
la guerre en Ukraine a commencé en 2014. Il y avait déjà 15 000 morts lorsqu'elle a démarré, ou 20 000 morts au Donbass. Je signale quand même que les accords de Minsk, la France, François Hollande l'a reconnu lui-même, on a une part de responsabilité. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas plutôt que se faire une bonne guerre, se faire une mauvaise négociation?
Mais elle dit alliée.
Moi, je préfère une mauvaise négociation qu'à une bonne guerre. Et moi, je vous trouve bien hasardeux. Moi, ce que je vous propose, c'est de jouer à la roulette russe. Essayez, parce que là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà, oui. On va essayer dans le bariller, et peut-être qu'il y a une balle. Bon, on verra
Mais il y a une balle qui peut tout arrêter.
Non,
mais
voilà.
C'est ce que tu dis, on ne fait pas la guerre.
Mais vous, vous êtes des idéalistes. Vous êtes en train de chercher des bonnes solutions. Vous n'avez pas compris qu'on cherche la moins mauvaise aujourd'hui.
C'est toi l'idéaliste qui regarde ailleurs. Juste, la diplomatie dont tu parles, et qui est la première des solutions, je suis d'accord avec toi. Mais le propre de la diplomatie, c'est que 90%, ça se passe en dehors du regard. Donc elle a lieu, là, en ce moment même où on parle, elle a lieu. Exactement comme le fait qu'on a des soldats et des instructeurs, etc., sur place, et on le sait pas. Mais c'est une évidence. Après, tu as la partie que tu vois, qui est visible, et tu as un président qui est dans son rôle. Je termine. Et tu as un président qui est dans son rôle quand il dit, nous pouvons être menacés, ce conflit nous concerne, et donc on doit tout faire pour le regarder.
Le président qui dans son rôle, il emploie des mots dont il mesure exactement la portée, qu'a dit une guerre existentielle. Dans la doctrine militaire, une guerre existentielle autorise l'utilisation de l'arme nucléaire.
Mais non. C'est ce que dit Poutine aussi.
Eh oui. Voilà. Et les deux, aujourd'hui, ils ont l'arme nucléaire.
Ouais,
et moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde où, sans arrêt, on va se demander.
Poutine, c'est très bien. Il sait très bien que si demain il appuie et qu'il envoie une bombe nucléaire,
mais ça part dans l'autre sens. Et on est tous morts.
Ça part dans l'autre sens.
Il dit de Villepin, on est tous morts. Voilà.
Non, mais néanmoins,
ça va régler le problème.
Alors
on verra même pas.
Les jeux, j'aurais quand même posé la question et même je suis avec eux, avec Zora et
ça sent le changement de camp.
Non. Je pense que le pacifisme a toujours été perdant dans l'histoire de l'humanité. Comme le disait François Mitterrand. Comme le disait François Mitterrand. du temps de la guerre froide, les missiles sont à l'est, le pacifisme est à l'ouest. Ça toujours, et là, c'est un peu la même chose. En revanche, si Macron nous dit c'est une question existentielle, c'est-à-dire que l'existence de l'Europe et de la France est en jeu, la réponse n'est pas suffisante. C'est-à-dire que, une fois de plus, le président a des mots très forts, mais derrière, ça ne suit pas. Parce que l'aide qu'on apporte à l'Ukraine est encore assez modeste. On n'est pas capable de fournir les munitions. On a du mal à se mettre d'accord au sein de l'Europe. Donc, si vraiment notre existence est en jeu, il faut passer en économie de guerre.
Alors, dans un instant, on verra quelle équipe mène. Est-ce qu'on est dans une guerre existentielle, la guerre en Ukraine? Oui, non, oui, non. Eh ben, vous saurez ça dans 5 minutes.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui nos trois GG, Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, Zora Bitton, cadre de la fonction publique, et Jérôme Marty, le médecin généraliste. Je suis sûr qu'en même temps que vous écoutez les grandes gueules, certains sur vos téléphones portables ont dû voir arriver des petites alertes info, des push, comme on dit aujourd'hui, vous informant qu'il se passait des choses dans le monde des médias, et nous concernant en particulier.
Oui, c'est toujours étrange quand tu présentes une émission en direct d'apprendre en même temps que tu viens d'être vendu. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, et ça nous arrive avec Alain, même s'il y a déjà eu un autre actionnaire. Mais là, donc, on vient d'apprendre que notre groupe Altis Media, donc c'est RMC, mais c'est aussi BFM, BFM Business, RMC Story, RMC Découverte, etc., sera vendu donc au groupe CGM. De CMA Saadé, CGM, ouais. CGM. Donc il y a une négociation exclusive. Alors je parle à Mourad parce que c'est lui qui connaît tout ça. Donc il y a une négociation exclusive.
Oui.
Ça veut dire
c'est fait.
On parle d'une valeur de 1,55 milliard d'euros pour la vente. Donc quand on parle de négociation exclusive, on s'est mis d'accord sur un prix.
Oui,
et puis on règle les détails ensuite.
On s'est mis d'accord sur un prix, et on est prioritaire. Il n'y a plus personne qui peut venir faire une offre. Ouais. Même si demain quelqu'un vient avec une offre supérieure, c'est terminé, les choses sont actées. Voilà.
Et donc après, c'est juste une question de calendrier, de transition sur
alors,
quand arrive la nouvelle direction.
Au niveau des audits, c'est de vérifier tout ça. Et puis après, c'est le calendrier.
Il faut expliquer ce que c'est. Vous savez, c'est cette entreprise qui est née de Rodolphe Saadé, notamment à Marseille, et qui est numéro un mondial aujourd'hui quasiment.
Et voilà.
C'est la troisième plus grande compagnie de transport de conteneurs au monde.
Une fois qui est rachetée par un Marseillais.
Et qui est déjà propriétaire de la Provence.
De la Tribune.
La Tribune.
Et de Corse Matin. Et puis qui a lancé la Tribune dimanche. Avec
donc voilà, comme ça, voyons, on vous en parle en toute transparence.
J'adore ce matin, la Tribune et la Provence.
Et il faut préciser qu'on l'a appris en direct.
Ouais.
Alors, tout d'abord, il y a eu un mail de la direction, mais quelques minutes avant que ça soit rendu public dans la presse. Donc c'est quelque chose qui s'est fait là. Enfin, là aussi, forcément, on n'est pas dans le secret quand il y a une négociation.
Pour en arriver là, c'est quelque chose qui a été entamé il y a au moins 6 mois, peut-être même plus.
À suivre de toute façon, même pour nous en tant que salariés, surtout d'ailleurs. On va revenir à
toi. Les grandes gueules sont là.
Oui, pour l'instant.
Et on continue jusqu'à
midi. Sinon, on ira sur une rire et chanson, comme j'ai dit.
Allez, on va aller dans l'Ille-et-Vilaine écouter Mickaël. Bonjour Mickaël. Revenons à notre discussion.
Le sondage.
Ah oui, tu as raison. Alors attendez,
perturbé.
Où on en est? Alors, Ukraine, est-ce que c'est une guerre existentielle? Oui ou non? Une équipe dit oui, Zora, Olivier et Jérôme. C'est Mourad qui dit non seul face au reste du monde. Mourad, le pacifiste, assis comme un Bouddha, attend que les bombes lui tombent sur la gueule, mais il mourra avec ses convictions. Donc, qui mène? Qui est devant? Ukraine, une guerre existentielle, oui, non, oui, non. Envoyez. Allez, 71% Mourad, ce n'est pas une guerre existentielle. Personne
ne veut.
Personne
j'avais donné le score.
Ne veut se sacrifier pour Kiev et estime, à mon avis, dans les 60%, c'est ça regarde les Ukrainiens et les Russes. Et on n'a pas à s'en mêler.
Mickaël, bonjour. Que la négociation est mieux. Mauvaise négociation est meilleure qu'une mauvaise.
Vous êtes dans quel camp? Le camp du oui ou le camp du non?
Je suis entre les deux parce qu'avec un fou d'un côté, on ne sait pas comment ça peut réagir. Maintenant, j'espère qu'on n'arrivera pas à ce point-là. Et il faut toujours s'en méfier. Maintenant, moi, je n'ai pas peur personnellement parce que quoi qu'il en soit, si on a un fou qui balance une bombe atomique, malheureusement, on l'aura tous. Et ça veut dire qu'on va riposter et que c'est la fin d'un monde du monde. Alors, j'espère qu'on n'arrivera pas à ce point-là. Maintenant, de l'autre côté, aller faire la guerre, oui, mais avec quoi et comment? Moi, je suis ancien militaire, je suis encore réserviste. Je vois beaucoup de choses dans les régiments. L'armée française, on tire des munitions brésiliennes. On a même plus de munitions. Maintenant, si c'est avec l'OTAN, bon, c'est sûr que comme tout va dans les armements au niveau OTAN. Donc, si les Américains nous donnent des munitions et tout, pourquoi pas. Mais vu que Trump risque de passer, c'est un autre fou qui va être au pouvoir. Donc, je sais pas. Et maintenant, l'armée française peut prendre conscience. Et peut-être qu'un jour, il faudra faire un sujet là-dessus et arrêter de faire croire que l'armée française va bien. On est la première armée d'Europe. Alors je me demande ce que les autres, comment ça va, sachant qu'on n'arrive plus à recruter dans la marine, on n'arrive plus à recruter dans l'armée de l'air.
Cela dit, Michael, j'entends votre constat et il est partagé, on en a régulièrement parlé ici avec tous les généraux, et je me souviens quand on a reçu l'ancien chef d'état-major des armées, le général de Villiers. Mais, si je puis ajouter un mais, on ne peut pas dire quand même que la Russie, avec toute la puissance qu'elle est, elle soit en très bon état militaire non plus, parce que Vladimir Poutine, il voulait faire une espèce de guerre éclair, aller jusqu'à Kiev, il peut pas. Il a été obligé de ramasser des soldats, y compris dans les prisons. Là, il attend qu'il y ait des nouveaux réservistes qui arrivent. Et de l'avis même de certains généraux, et souvenez-vous de Prigogine, l'homme de
l'homme qui n'aurait pas dû prendre l'avion,
qui a dit lui-même, l'armée russe, si j'étais pas là, elle vaudrait pas un cachou, quoi.
Pour finir, si vous voulez, j'ai pas peur, parce que je me dis que si malheureusement on arrive à la bombe atomique, c'est la fin d'un monde ou du monde, quoi qu'il en soit. Deuxièmement, j'ai pas peur, avant que les Russes ils viennent à Paris, ils ont des pays à passer, ils n'arrivent pas à aller en Ukraine, oui, c'est une armée du pauvre, ils font comme les Américains à l'époque du Vietnam, on envoyait les Noirs américains et les Portoricains, eux ils vont chercher les gens dans les Sibérie, les conscrits, le mec il retourne, ils font comme en 40, ils tirent une balle dans la tête, et là ils prennent du Népalais, ils prennent de l'Indien, qui font venir pour soi-disant ça, ils se retrouvent, donc moi j'ai pas spécialement peur de l'armée russe.
Michael, vous avez pas peur des bombes, mais moi je vais vous faire peur. Comment on va la financer, la guerre?
Toute façon, on a...
Avec quoi on va la financer? Votre épargne?
On a l'argent miracle.
Non, mais ne rêvez pas, on la financera avec votre épargne.
Ah oui, non, mais c'est
sûr. Eh oui, l'impôt de guerre, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on saisira votre épargne pour financer la guerre. C'est possible. Voilà, je dis pas que c'est probable, je dis que c'est possible. Et c'est pas exclu. Donc si les bombes... encore une raison de vous faire peur. Et accessoirement, je vous rappelle quand même que les fantassins, comme vous dites, c'est accessoire pour faire la guerre. Je vous donne une des armes que possède la Russie. Ce sont des espèces de missiles sous l'eau qui peuvent atteindre.
Bien sûr, mais on les a aussi.
De n'importe
on aussi, on les a aussi, Mourad.
Oui, mais qui provoquent juste un tsunami nucléaire. Voilà, ça on n'a jamais connu. Mm-hmm. L'occasion peut-être de connaître. Alors moi, j'habite en plus au bord de la Méditerranée, donc c'est peut-être aux premières loges. Non, mais vous rendez compte de quoi on parle? On est chez les fous, là. On est en 2024. On a connu des guerres, on a connu tout ça.
Et
en 2024, on a un débat pour savoir si la fin du monde est une option par rapport au conflit entre l'Ukraine et éventuellement le côté envahisseur de Poutine. Il n'y a aucune option par rapport à la fin du monde. Aucune.
Mourad, le président de la République, il n'avait pas d'autre option que d'être ferme.
Et que
de montrer à Poutine qu'on est quand même derrière l'Ukraine. Et que faire tomber l'Ukraine, on peut pas prendre le risque de se dire que ils vont s'arrêter à l'Ukraine, il va rien se passer derrière.
On a pris conscience que dans cette partie du monde, on estime que Poutine est un salaud. Mais tu es conscient qu'il y a une plus grande partie du monde aujourd'hui qui estime que Poutine est un mec bien et qui sont prêts à le défendre.
Donc nous on voit
en Chine, dans une grande, ce qu'on appelle les BRICS. Les BRICS, c'est plus de la moitié de la population de la planète qui sont prêts à défendre Poutine. Il n'est pas isolé, Poutine.
Mais on sait tout ça. Mais depuis le début du conflit, on a envoyé du pognon, on a envoyé des armes légères, on a envoyé des armes plus lourdes, on a envoyé des missiles. Maintenant, on a envoyé des chars, des canons. On en est à réfléchir à envoyer des avions, etc. On voit bien qu'il y a une escalade progressive. On peut pas. Et tu l'as dit toi-même.
Parce que les Ukrainiens reculent.
Et tu l'as dit toi-même, on peut pas le faire seul. Et la France n'est pas le pays loin de là qui a envoyé le plus de choses. Loin de là.
Michael,
faut serrer les dents, essayer de faire en sorte de
Tant qu'il nous en reste des dents, parce qu'après le conflit nucléaire,
c'est laissé à faire.
On n'aura plus grand-chose à faire.
Si je peux terminer, juste.
Maintenant, la seule chose, c'est que ce qui est triste, quand on regarde l'histoire, c'est un éternel recommencement. La bêtise est là.
Mais ça paraît aberrant qu'en 2024, on en soit revenu à ça.
On retourne en arrière et il y a toujours un fou à un moment ou deux ou l'autre qui revient.
Je pense qu'il n'y a pas qu'un fou, malheureusement. C'est ça
qui est. On est juste, je termine, on est dans un équilibre du monde qui est en train de basculer, qu'on le veuille ou non, sous nos yeux. Oui. Et donc, effectivement, en même temps qu'on manie la diplomatie, encore une fois, je te dis, elle est underground, il faut qu'on manie aussi l'Union européenne et la capacité à se défendre en Europe. Parce que, tu l'as dit, aux États-Unis, tu as Trump qui possiblement est élu. Trump, je te rappelle qu'il y a quelques semaines, Trump a dit, si Poutine vous attaque, je ne ferai rien pour vous défendre et même je lui dirai de le faire. Donc si tu veux,
c'est vrai.
On n'a pas payé l'OTAN. Donc à partir de là, lui te dit vous avez pas payé les gars, moi je vous défends pas. Donc faut bien qu'on regarde sans l'OTAN qu'est-ce qu'on peut faire. Alors je te l'accorde, on n'ira pas très loin, hein. Mais on peut pas quand même laisser. On peut pas regarder ailleurs et se dire bon allez ça va bien se passer.
Trump c'est pas ma tasse de thé, mais il faut reconnaître c'est le seul président américain qui n'a déclaré aucune guerre.
Il a même fait les accords de paix, les accords d'Abraham.
Alors je te retourne l'argument. J'ai oublié ma question.
Mais tu veux que je te dise en fait, moi je pense que ça.
En ce moment,
Poutine, il sait qu'il joue sa vie russe. Là, il va être réélu, il va faire encore plus un mandat encore plus long que Staline. Poutine, c'est tout. Mais là, je pense que tout le monde manque le muscle. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça va se terminer autour de la table des négociations.
Oui, bien sûr.
C'est comme ça. Et au moment où il s'est
négocié, j'ai retrouvé.
Mais bien sûr,
Gabriel Attal a dit à l'Assemblée, pardon. Il a dit, Poutine ne comprend, grosso modo,
mais bien sûr,
résumé, ne comprend que la menace ou le rapport de force. Mike Tyson aussi, il comprend que le rapport de force. Je vais lui mettre un rapport de force à Mike Tyson.
Donne-toi les moyens.
Ça sera compliqué. Voilà. Alors pousse ton raisonnement. Je pousse à la paix parce que on sait. Zelensky pour moi est un obstacle à la paix. Voilà, parce que ça fait partie.
Tu veux des accords municipaux, lui?
Sinon, je pousse à de mauvaises négociations. Poutine a ouvert la porte de façon un peu maladroite en insultant le président. Mais aujourd'hui, le problème de la paix aujourd'hui, c'est le Donbass. Et aujourd'hui,
Alors, nous sommes avec Hélène qui nous appelle d'Avignon. Bonjour.
Il faut y aller, Jérôme.
Oui, t'as pas échappé que la Suède est rentrée en l'OTAN, quand même.
S'il vous plaît.
Non, ça m'a pas échappé.
Attendez,
Hélène, qu'on veut faire rentrer l'Ukraine.
Vous prenez quel camp? Le camp du oui ou le camp du non?
Le camp du non, d'habitude, je suis d'accord avec Mehdi, mais là.
Non, c'est pas Mehdi. Moi, je suis le remplaçant de Mehdi.
Avec Mourad, oui.
Avec Mourad, pardon. Mais on peut pas parler tout à l'heure des propriétaires et des squatteurs en disant de se mettre du côté des propriétaires. Et là, maintenant, de dire, Macron, il devrait se taire. Parce que bon, quoi qu'il en soit, le squatteur, c'est Poutine. Hein.
Oui, mais si on reste l'immeuble, il n'y a plus de propriétaire.
C'est lui qui vient sur notre Europe. Oui. Donc, à un moment donné, il faut lui dire, mon gars, rends les clés, quoi. Et retourne chez toi. Ben voilà. Et la position, il fallait la prendre. Alors, le conflit nucléaire, j'entends. Parce que bon, il y a la présence nucléaire en Russie. Mais nous, on a plein de centrales. Donc, il sait très bien que s'il envoie une bombe, ça va rayer la moitié de la Terre, hein, parce qu'on a trop de puissance.
Oui.
Mais on a un bouclier, en fait. C'est pas qu'on a de la présence militaire, on peut pas envoyer de missiles. Mais on a un bouclier qui fait qu'à un moment donné, il peut pas être aussi fou que ça. Mais il fallait qu'on dise.
On n'en sait rien. Non, mais Mourad, est-ce que vous pensez que Poutine peut perdre une guerre? Sans être capable de tout. Un mec aussi narcissique, aussi frappé, qu'il peut perdre une guerre sans être capable de tout.
La stratégie, je pense, ce n'est pas de vaincre Poutine ou de faire perdre l'Ukraine. La stratégie, c'est que il y a un rapport de force qui s'établit. C'est qu'à un moment donné, pour Poutine comme pour Zelensky, le mieux, ça soit de négocier, parce que cette guerre, elle va être éternelle.
Poutine, il a dit, je suis d'accord, mais sur les bases actuelles.
Et pour cela, pour négocier, il faut un rapport de force. Tu sais très bien, quand tu vas négocier avec ton patron à une augmentation de salaire, faut mieux avoir bien travaillé avant, parce que sinon, tu vas pas l'obtenir. Et c'est la même chose.
Mais le rapport de force, on fait de la gonflette.
Poutine,
face à Poutine.
Non, pour que de Poutine, on obtienne ce qu'on veut, il va falloir que l'Ukraine soit plus forte. Et en ce moment, l'Ukraine est en difficulté sur le terrain. D'où la nécessité d'aider l'Ukraine. Voilà, c'est une stratégie qui est assez limpide. Après, le problème, moi, je pense, et c'est la limite, c'est qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas les moyens d'aider l'Ukraine comme on voudrait.
Et il me semble que
Macron parle beaucoup.
Olivier, on les a aidés. On paye aujourd'hui, l'électricité 4 fois plus cher. Parce qu'on a décidé de plus l'acheter.
Mais on l'achète, alors,
il a payé aux Américains.
Mais si la Russie gagnait, on la paierait plus cher. Si la Russie. C'est un bon argument. C'est un argument pour nous. Oui. Si par exemple la Russie met la main sur les céréales.
D'accord. Sur les céréales ukrainiennes,
mais moi je te parle de factuel. Toi, tu me compares du factuel et du peut-être. Non, ça marche pas.
C'est ce qu'on veut éviter.
C'est toi qui fais du nucléaire. C'est toi qui fais du peut-être. Si la Russie.
Mais non, mais.
Si la Russie gagne,
tu n'en sais rien.
Une mauvaise foi extraordinaire.
Tu n'en sais rien.
Non, mais. Pas d'argument.
Morad a choisi les hypothèses.
Oui, qu'il a,
il refuse celle des autres.
C'est-à-dire qu'il a, oui, t'as choisi l'hypothèse de dire, mais attendez, vous pensez que la Russie voudrait être expansionniste, elle veut l'Ukraine, le Donbass, etc. Mais toi, ton hypothèse de dire, mais non, mais la Russie, elle veut juste le Donbass et c'est tout. Et donc ça, soit c'est l'hypothèse, j'allais dire la plus optimiste. Mais tu sais très bien que dans ce genre de situation, tu dois avoir les hypothèses les pires pour pouvoir anticiper.
Ce que j'ai dit au début. Sera toujours temps de faire la guerre et on n'est jamais en retard pour faire la guerre.
Mais tu crois jamais. Pas trop tard.
Non, mais honnêtement, je suis pas un macroniste convaincu.
Tu voulais partir en économie de guerre. On y va. Économie de guerre.
Mourad, je suis pas un macroniste.
C'est une vraie question.
Mais il va falloir manger du riz. Hein.
Mourad, je suis pas un macroniste convaincu. Je crois que tout le monde le sait. Bon, mais. Tu t'imagines que Macron est fou et que donc il fait ça, et puis en jouant au dé l'avenir de la France, en se disant oh, allez, s'il y a une guerre, ça passera crème. Non. Il a une responsabilité, est une responsabilité française, mais également mondiale là-dedans. Il est plutôt bon dans ce rôle-là. Il cherche à déclencher et à secouer l'Europe.
C'est fini.
À secouer l'Europe parce qu'elle ne se bouge pas assez.
Il
est dans son rôle.
C'est fini. Il est plutôt isolé.
Merci à Hélène.
L'avantage de
conflit nucléaire,
c'est que tu pourras sauter de ta chaise sans avoir besoin de te lever.
Merci à Hélène, à Michael. Une guerre existentielle, oui, non.
Avec l'épargne, j'ai dû prendre un poids.
Mourad était à plus de 70% d'avantage dans la victoire.
À combien il aura, je suis ça de près.
Ah oui.
Allez, résultat final, s'il vous plaît.
Alors
on va regarder.
Ouais, 70-30. Je me suis pas trompé.
On t'a piqué un point.
Vous avez gagné un point.
Ça fait 10 chacun.